respirer. Une semaine de formation dans les locaux de Radio Centrafrique.
Une semaine à réfléchir autour du thème « respirer ».
Immersion pas évidente dans ce que nous évoque ce mot.
Avec chacune nos imaginaires, nos expériences, des petits bouts de nous.
Souffle suspendu. On s'est jeté dans l'aventure, on s'est lancé dans l'écriture.
Tu m'inspires.
Dans cette émission, on vous propose de découvrir nos témoignages, parfois drôles, parfois intimes.
On est aussi allé à la rencontre d'Audrey Barat, sophrologue.
Elle nous partage son parcours, sa définition de la pratique.
Puis on est parti avec un micro dans les rues, savoir ce que vous en pensiez.
Si c'est par rapport à ce que j'ai entendu, vous allez avoir des surprises.
Alors, inspirez bien et bonne écoute.
Trottoir pour la radio, est-ce que vous auriez une seconde pour
répondre? Non, on n'a pas le temps.
Non, on ça ne vous dit pas?
Non.
Est-ce que vous auriez 5 minutes pour répondre à une...
Pas du tout.
Pas trop motivée.
Ouais, ça marche.
À quoi ça vous fait penser le mot respirer?
Je sais pas, moi, vous me posez vraiment des colles, là.
Respirer? Ah, oh, le nez est vertical, les yeux sont horizontaux, le dos est droit. Puis après vient la respiration, bah c'est le zen, quoi.
Avez respiré, vous voulez dire? Bon, avez respiré, hein. C'est la vie, il n'y a pas de problème à respirer. Les gens qui ne peuvent plus respirer, ils s'éteignent.
Respirer, mais ça, tu respires, quoi.
Vous êtes en plein dans le sujet, c'est pour la respiration?
Ouais.
Je sais pas, franchement. Non, la vérité.
D'accord. Et est-ce que tu as l'impression de ne plus pouvoir respirer à certains moments?
Ouais, qu'il fait chaud.
Et est-ce que tu peux nous faire un petit son au micro de ta respiration?
J'inspire et j'expire, c'est ça.
Merci, madame.
Merci, Maria.
Très bonne journée.
À vous aussi, au revoir.
Merci,
au revoir.
Vous aussi.
Quand je respire trop, ça m'étouffe. Ça peut paraître contre-intuitif comme ça, mais me concentrer sur ma respiration, ça me provoque plutôt une sorte d'apnée. Quand je fais des exercices de respiration, au yoga par exemple, il arrive toujours un moment où je m'aperçois que j'ai oublié de respirer. Je bloque mon souffle. C'est drôle parce que ça me renvoie au fait que j'ai mis très longtemps à m'autoriser à m'occuper de moi. Répondre à mes propres besoins me semble toujours un peu égoïste, égocentré. Comme si, en faisant ça, j'empiétais sur la place laissée aux autres. Aujourd'hui encore, c'est pas très fluide, même si j'y fais attention. Quand j'étais au collège, à un moment, les copines m'appelaient Mère Teresa, parce que j'étais préoccupée par les personnes qui avaient pas l'air bien. J'avais toujours envie d'aller tenir compagnie à celles et ceux qui restaient seuls, à l'écart. Et ça, tout en essayant de garder ma place dans la bande de copains. J'avais très peur d'être moi-même mise de côté. Mère Teresa, ça résonnait dans ma tête mi-péjoratif, mi-valorisant, un peu caricatural, et ça a éveillé chez moi une sorte de vigilance, l'envie de ne pas tomber dans des rapports de charité, mais de construire des interactions vivantes. Être avec les gens, être attentive à ce qu'ils sont, me nourrit énormément. Mais c'est peut-être aussi une manière d'attendre d'eux la même chose en retour. je comprends petit à petit que je suis la seule qui peut vraiment répondre à mes attentes. Savoir de quoi j'ai envie, à quel moment et de quelle manière. C'est un apprentissage long, alors je m'entraîne en essayant d'être plus à mon écoute, en m'aménageant des espaces de solitude. C'est déjà difficile pour moi de définir précisément ce que je veux, alors le nommer face aux autres, encore plus. Parfois, ça fait des couacs. Quand je réussis enfin à formuler ce que je veux, j'ai vraiment besoin qu'on y fasse de la place, tout de suite, maintenant. Des fois, je l'exprime de manière péremptoire, sous forme d'exigence. Et souvent, je m'en veux. J'avance en tâtonnant, j'essaye de réajuster au fur et à mesure. Trouver l'espace qui me convient entre moi et les autres. Une manière d'être avec, tout en restant entière. Pas trop proche, pas trop loin. Un mouvement d'aller-retour. Comme une respiration.
Trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Allez les filles, on expire et on inspire. C'est bien, vous pouvez y arriver. Un, deux, trois, quatre.
Et la jambe droite par-dessus l'épaule. Allez les filles, tout ensemble.
Un, deux, trois, quatre. À 12 ans, j'ai pris des cours de sophrologie pour apprendre à respirer. Ma maman avait estimé que j'étais angoissée et que j'avais besoin d'apprendre à gérer mon stress. Je crois que j'étais trop jeune et ces cours m'ont pas aidée. Comme j'avais de la facilité à l'école, j'ai tenu jusqu'au bac sans trop ressentir d'anxiété. Par contre, arrivé à la fac, les signaux d'angoisse se sont multipliés. La porte de l'amphi à peine refermée, je manquais d'air, je sortais en toussant. Bien, j'avais des maux de ventre interminables. Du haut de mes 19 ans, je pensais juste que je buvais trop de café et que j'étais un peu trop tendue. J'ai mis quelques mois à comprendre que mon corps réagissait à l'angoisse, avec des crises de panique régulières. Je me sentais pas du tout à la hauteur de ces études, de ce monde universitaire. Je me sentais pas à ma place en tant que fille de prolo. Je trouvais les gens arrogants et méprisants, et ça me déstabilisait. Au final, j'ai pu canaliser mon stress et mon angoisse en m'engageant dans les luttes universitaires. J'étais enfin actrice. J'avais trouvé une place. Au lieu d'arrêter la fac, je l'ai réussi haut la main en ratant la moitié des cours pour aller manifester. Poursuivre un idéal m'a permis de dépasser mes peurs et de donner du sens à ma vie. Après la fac, en entrant dans la vie active, j'ai continué à me nourrir en m'engageant dans différents collectifs. Pourtant, une routine s'est installée, malgré moi. Travailler, militer, les réunions, j'ai commencé à m'ennuyer. Avec la quarantaine qui approchait, j'ai décidé de réaliser un vieux rêve d'adolescente, celui de vivre en collectif à la campagne. Je suis partie loin de mon pays pour trouver un lieu qui me convenait. Et je l'ai trouvé dans les montagnes du Trièves, près de Grenoble. J'ai quitté mon confort salarié. J'ai choisi une vie avec moins de sécurité et moins d'argent pour pouvoir investir mon temps dans des projets collectifs. Avoir le temps de modeler des petits bouts de société qui me ressembleraient. Apprendre à faire des choses par soi-même. Être dans la découverte et le plaisir. Construire. Une nouvelle vie faite d'apprentissage. Mais ces activités qui donnaient du sens à ma vie ne m'ont pas apporté de sérénité. Bien au contraire. Passer son temps à s'organiser et à apprendre, c'est hyper exigeant. Souvent, je trouve compliqué d'aller au rythme du collectif, de prendre le temps, de se mettre d'accord avec tout le monde. Alors que j'avais fait ces choix pour vivre mieux, la question du stress, du manque de patience, sont réapparues très fort dans ma vie. J'avais souvent besoin de prendre l'air, de partir quelques jours, pour échapper au quotidien, à l'organisation collective. Et c'est là que le Qigong est entré dans ma vie. une pratique de gymnastique chinoise. Celle des vieilles dames et des paysans, celle du bon sens et du taoïsme. Il y a 2 ans, j'ai découvert le yin et le yang, le son et la couleur qui guérit le poumon. J'ai parcouru le méridien de la rate. Alors que je suis une personne très rationnelle, j'ai adoré prendre l'énergie de la terre et l'envoyer dans le ciel, et puis sentir une pluie d'étoiles qui me retombait dessus. J'ai pu entrer en résonance avec l'énergie du monde qui m'entourait en pratiquant des gestes millénaires. Finalement, j'ai aussi renoué avec une part de moi plus spirituelle. Mon côté punk a décidé que c'était pas honteux de prendre soin de moi, que ça valait le coup de laisser de la place à mon petit côté hippie pour me sentir mieux. Il m'a fallu tout ce temps pour accepter de prendre soin de moi, pour être bien avec les autres.
Alors on arrive chez Prune qui nous prête son jardin parce qu'on va interviewer Audrey Barat qui est sophrologue. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Léonie.
Audrey, donc.
Bon, bah, bien, c'est Lucille.
Bonjour.
Prune. Donc nous on est en stage, en formation à Radio Saint-Afrique cette semaine. On fabrique une petite émission autour du mot « respirer ». Et du coup, c'est pour ça qu'on avait envie de te rencontrer, que tu nous expliques un petit peu ce que c'est la sophrologie.
On a une société qui est bien plongée dans le mental, dans réfléchir, mettre en place des stratégies, réfléchir dans tous les sens. Et on est une société très agitée et où finalement, on n'est pas vraiment à l'écoute de son corps, de ses émotions, de ses ressentis. Et du coup, avec la sophrologie, moi, c'est ce que ça m'a appris à faire. C'est à me reconnecter à une partie de moi pour arrêter de faire fumer le ciboulot tout en haut. Et donc, en gros, pour moi, c'est vraiment un outil qui m'a reconnecté à moi et qui m'a permis de mieux me connecter aux autres.
Et concrètement, ça se présente comment ?
Si tu veux une séance de sophrologie, il y a un gros boulot sur le corps. Donc sur la respiration en premier lieu. Donc on commence par bosser là-dessus. Et après, il y a une grosse prise de conscience du corps. On a toute l'attention focalisée dessus. Donc on fait quelques petits mouvements, tout en conscience, les yeux fermés si c'est possible. Et après, on peut faire ce qui s'appelle les techniques de visualisation, où là, le sophrologue ou la sophrologue va proposer des voyages un peu imaginaires, où la personne qui reçoit la séance de sophrologie, ben, laisse aller complètement son imagination, laisse venir toutes les sensations, les images, enfin, tout ce qui arrive sans aucune barrière, quoi. Voilà. Donc il y a trois grands temps en sophro, pour faire simple.
Et est-ce que tu aurais un souvenir marquant à raconter pour les auditeurs et auditrices ?
Ouais. Je suis intervenue dans un lycée, dans un groupe d'ados en décrochage scolaire. Et là, c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un qui se relâche tellement, qui glisse de la chaise, il glisse de la chaise, il glisse de la chaise. Et là, je me dis, il va se casser la gueule. Puis le gamin, il ne bougeait pas, il était complètement affalé dans sa chaise à 2 doigts de tomber. Chose qu'on ne fait jamais en sophro, il ne faut jamais aller toucher les gens parce que sinon ça peut leur faire peur. Là, qu'est-ce que je fais ? Je vais le voir, je lui pose les mains sur les épaules, il ne réagit toujours pas. Et là, je me dis bou bou bou. Et en fait, bon, tous les autres élèves sortent, moi je reste avec lui. Et puis il finit par ouvrir les yeux et puis là, il me regarde. Déjà, il avait le regard qui avait complètement changé par rapport au début. Je lui dis ça va ? Il me dit oui. Et il me dit merci. Et c'est tout, quoi. Et le gamin, il avait les yeux qui pétillaient, quoi. Mais dans le merci, il y avait un truc, mais. Et quand tu vis des moments comme ça, tu dis non, mais c'est super, quoi.
Nous aussi, on va avoir les yeux qui pétillent. Est-ce que tu nous montres un petit peu comment ça marche ?
Ok. Tu me mets au défi, voyons vos yeux. Pétillent déjà, non, vos yeux ? Faites de la radio, ça fait pétiller les yeux, la radio. On va se mettre en cercle. Avec une chaise à la sophro, c'est assis, debout ou couché. Prendre le temps de vous installer confortablement, il n'y a pas besoin de rester droit, tout ça n'est pas un yoga. Donc, et chacune à notre rythme, voilà, nous installons notre corps dans une posture confortable, agréable. Laissez tout le bruit environnant, imaginez que la ville est loin et que tout ça, toute l'agitation de la journée, on la laisse se dissoudre, même si les voitures passent à côté de nous, c'est quelque chose qui est lointain, qui est hors de nous, hors de ce cercle, nous pouvons porter notre attention sur notre poitrine, sur notre cage thoracique. Et sentir la présence de notre respiration. Et nous pouvons souffler et expirer tranquillement. Et sentir peut-être à l'intérieur de notre buste l'espace qui s'ouvre, qui se libère. Et qui permet à notre respiration de prendre de plus en plus de place à l'intérieur de nous.
Inspirez, expirez.
À 30 ans, je suis devenue maman. Ça a changé ma vie. Depuis toute petite, j'ai toujours eu envie d'aider les autres. Très ou trop sensible aux questions d'éducation, j'ai passé 10 ans de ma vie dans le social. Ça a démarré après le bac. Je suis partie à Montpellier. Je me suis investie dans une association de quartier au Petit Bar, des jeunes en difficulté, des familles de tous horizons. J'ai été pionne dans un lycée, soutien scolaire, formatrice au Greta. Toutes ces années, j'ai pris la charge des problèmes des autres. C'était pas facile, mais je crois que ça m'allait bien. J'étais jeune quand j'ai rencontré le père de ma fille. Je me suis installée chez lui. Je me suis adaptée à son rythme. Ses valeurs, sa famille de 3 enfants. M'adapter, m'effacer, c'était devenu ma marque de fabrique. Devenir maman a changé pas mal de choses en moi. C'est venu de manière insidieuse. Oui, il y a des nouveaux rythmes qui s'imposent. La nuit saccadée, pleurs, allaitement, maladie, dents, etc. Mais c'est surtout les questions de responsabilité qui m'ont transformée. Avant, finalement, je me posais pas tant de questions que ça. Je crois que j'avançais en fonction de mes envies et des occasions. Avoir Milan, ça m'a ancré autrement dans le présent. Et surtout, ça m'a projeté d'un coup dans l'avenir. Le mien, mais surtout le sien. Il fallait assurer. Je voyais bien que ces 10 ans de social, ça m'épuisait. J'ai commencé à flipper. Je voulais pas que ma fille ait une maman complètement essoufflée. Alors j'ai tranché. Changement radical de cap. Reprise d'études en accéléré, réorientation professionnelle, séparation du père de ma fille, tout ça au même moment. Le rythme et les exigences étaient immenses. Et ça n'a pas toujours été simple, c'est sûr. Je me suis découvert des capacités que je ne soupçonnais même pas. J'ai décuplé mon énergie, car en ligne de fond, je travaillais pour nous. C'est sûr que le temps pour une mère célibataire devient différent. Gérer les sorties d'école, les activités, les douches, les repas, les devoirs, les courses, le ménage, les machines, les bobos au quotidien et tous les imprévus toute seule, ça épuise aussi. Il faut anticiper un max. C'est un changement de référentiel. Mais finalement, c'est pas si lourd que ça à vivre. Parce qu'avoir un enfant, ça permet de sortir de soi. Des pépites d'amour infinies s'improvisent. Il ne faut pas croire que je sois passée d'un dévouement à un autre, car c'est d'amour et de partage qu'il s'agit. Mon rôle, c'est moins de m'occuper d'elle que de lui déblayer le terrain vers l'autonomie, vers ses propres choix. Et ça, c'est aussi ce qu'elle m'a permis de faire, qu'elle m'a appris en naissant. Dès son premier souffle.
C'est rien de le dire, faut qu'on respire.
Ouais.
À 24 ans, j'ai peut-être enfin trouvé ma voie.
plutôt mon second souffle, comme on pourrait dire. J'ai quasiment toujours vécu à Sainte-Afrique, dans l'Aveyron. Sainte-Afrique, c'est paisible. C'est ce que j'aime ici, mais ça n'a pas toujours été le cas. À 14 ans, je me suis retrouvée seule avec mes parents. Mon frère est parti pour faire ses études. On pouvait plus se permettre de partir en vacances. Plus de budget. Ça m'a tout de suite manqué. Ce souffle, cette bouffée d'air frais une fois par an, je l'avais même plus. J'aimais ce moment en début d'année, où on cherchait la prochaine destination. Puis, venu l'été, le voyage en lui-même. Un moment de retrouvailles à quatre, en famille. Le temps a passé, j'ai continué à me sentir seule, à étouffer avec mes parents. Crise d'ado, pression au lycée, avoir le bac, passer son permis, tout m'angoissait. Et par-dessus tout, un petit ami qui me coupait le souffle, dans le mauvais sens du terme. À cause de lui, je me suis éloignée de ma famille. Il m'a même coupée de mes amis. Il m'a empoisonné la vie. Alors j'ai fini par partir pour mes études. Pendant 2 ans, j'étais à Rodez en IUT. Ça me plaisait et pourtant, c'était l'enfer. Je trouvais les gens hautains. J'arrivais pas à retrouver la simplicité et la gentillesse des habitants de Sainte-Afrique. Le week-end, je revenais avec le sourire. Ça me permettait de respirer, revoir mes amis, reprendre une bouffée d'oxygène. En 2014, je suis partie à Vichy pour ma 3e année d'études, la dernière. Et là, rien à voir avec les années précédentes. Découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes venues des quatre coins de la France avec les mêmes goûts que moi, le bonheur. Et j'ai fini par revenir à Sainte-Afrique. J'ai retrouvé les gens qui me faisaient rire, mes amis. J'en ai rencontré des nouveaux. Je sortais plus qu'avant, je sortais de ma bulle. Et puis, en 2016, tout s'est bousculé. En une semaine, je commençais mon nouveau boulot à la radio, j'avais trouvé un appart, et puis, je rencontrais Mehdi, ma bouffée d'oxygène. Avec lui, j'ai appris à relativiser et à refaire confiance à un homme. C'est pas facile pour moi, mais il est patient. J'ai commencé à voyager avec lui, comme j'aimais le faire quand j'étais petite. Au début, on partait pas très loin, à Albi ou à Montpellier. Mais depuis qu'on est parti en Espagne, j'ai plus envie de m'arrêter de voyager. Nos projets ? Londres ou Bruxelles. Vous allez sûrement vous demander pourquoi je reste à Sainte-Afrique si j'aime tant voyager. Pour le moment, je suis bien ici. Je partirai peut-être un jour, mais ça reste mon coin de paradis. Et puis, quand je suis avec Mehdi, c'est lui qui me fait voyager.
Bon, les filles, faut qu'on trouve une pastille, là.
On n'avait pas parlé l'autre fois, là, dans les idées d'un film, Respiro, je crois.
Ah ouais, ouais, trop bien, moi j'ai
ah
vu.
Ah ouais, ça me dit quelque chose.
Et on peut, je sais pas, ça parlait de quoi, déjà ?
Bah, c'est une fille en Italie.
En Italie ? C'est pas au Portugal ?
Ouais, il me semble aussi que c'est au Portugal.
Ah non, je crois que c'est en Italie. Hein.
Ouais, moi aussi, je crois, c'est plutôt en Italie.
C'est une meuf qui est sur une moto, là, non ?
Ouais, ouais, sur l'affiche, elle est sur une moto.
Avec des super cheveux longs et bien noirs.
Elle a une très belle robe, mais en fait, à part ça...
C'est au bord de la mer, en tout cas.
Ouais.
Et je sais pas, on peut en dire quoi ?
Ouais, ouais. Je sais pas, moi, je me rappelle de rien, en fait. Je crois juste que, voilà, elle respire. Hein.
Bon, bah, je sais pas, peut-être on serait plus au clair si on partait sur le Grand Bleu, non ?
Vous entendez cette voix ? C'est la mienne. C'est mon identité sonore. Elle a une histoire. Quand j'étais petite, j'avais une voix normale, comme toi. Et puis, à 15 ans, j'ai perdu ma voix. Je l'ai bien cherchée, je ne l'ai jamais retrouvée. Elle s'est éteinte, petit à petit. Parce que sur un été, je vendais à la criée sur la plage et que, bah, forcément, j'ai forcé. Chouchou, beignet, esquimo, boisson chaude. Et puis... Je suis la fille de ma mère aussi, et j'ai hérité de sa physiologie, du feu sur les cordes vocales et une voix plus que fragile. Je crois que je suis hypersensible au monde, et à partir de ce jour, mes émotions ont dicté la mélodie de mon discours. J'étais jeune et rebelle, pleine de feu, j'ai forcé pour que le monde m'entende, parce que j'avais plein de choses à lui dire, mais forcer, c'est pas toujours bon. Du coup, tu vois la voix d'un garçon qui mue ? Ben, la même. De bon matin, quand je voulais prendre la parole en cours, c'était les montagnes russes dans ma gorge. une musique punk au moment où toi tu veux faire du classique, voire la page blanche en mode sonore. Les yeux des gens qui s'écarquillent, double nœud dans mon larynx, l'angoisse qui monte. Ben oui, la voix, c'est l'intime qui vibre pour devenir public. Et puis progressivement, la peur d'être muette. Pas facile de perdre la voix quand on aime parler, quand on aime chanter, quand on a besoin de crier. Récemment, un peu moins jeune et un peu moins rebelle sans doute, j'ai compris que la voix, c'est respirer. Et moi, j'ai parfois l'impression que je m'auto-asphyxie. Quelle violence avec moi-même! J'avale le monde entier, toutes tes sources d'inspiration, et à l'heure d'expirer, souffle coupé, mots bloqués. En fait, parler, c'est gérer l'air qui rentre et l'air qui sort. C'est ingérer l'extérieur pour faire vivre l'intérieur. C'est se nourrir de ce corps étranger pour partager en retour des mots, des idées de son propre corps. Mais bah, faut doser. C'est comme toute gymnastique. Respirer, c'est précieux. Comme dit mon père, un souffle à la fois, pas deux. Alors autant choisir ce qu'on respire, trier un minimum. Certains paysages sont comme une respiration. Moi, j'ai besoin de feuillus. Certaines personnes aussi sont comme une bouffée d'oxygène. La famille, les amis, faut développer son flair. Et tu sais quoi? Tout récemment, j'ai rencontré un homme qui m'inspire, une affaire qui sent bon. C'est fou, il a perdu l'odorat et pourtant il dit qu'il aime mon odeur. Depuis quelques semaines, il me dit qu'il retrouve des odeurs. Il dit que c'est l'air que j'expire qui l'inspire. Il le respire sans rien dire et il est tout sourire. Et moi, depuis quelques semaines, bah, j'ai envie de chanter.
Your lips were fastening in the fall, and all the girls here. But as we wrote the symphony, you did notice it disappeared. It started with a conversation, or maybe with a love. But a few more glasses of spirit lived a long life. Around us, friends, we used to be golden shadows, forming a discreet aura of whispers to let us believe.
Notre voyage touche à sa fin. On va sortir de là. Retour à l'air libre.
On arrive au terme de cette émission réalisée par
Léonie,
Lucille,
Fanny,
Nolwenn
et Prune.
C'est bien oxygéné.
Grâce à toute l'équipe de Radio Sainte-Afrique.
À la séance de sophro avec Audrey Barat.
On remercie le Jardin de Prune.
Et Guillaume et Élise de Wakadi
qui ont toujours quelque chose à dire.